à tous et à tous. Vous êtes sur Radio B.
Vous écoutez l'émission des élèves de CE1 de l'école Notre-Dame.
Alix, Louis Gaon,
Raphaël, Chloé,
India, Gagik, Jules,
Ryan, Naila, Salomé, Clément,
Margot, Blanche, Céleste,
Nina, Noah, Rose,
Valentin, Luca,
Inès, Marius,
William, Eugénie,
Angèle, Loïc, Victoria, William.
Dans cette émission, nous allons vous parler
de la naissance des étangs,
des poissons qui y vivent,
de la pêche d'étangs,
des différentes zones de pêche
et du colibri.
Nous allons aussi vous faire des devinettes sur les oiseaux.
En effet, nous sommes allés en Dombes assister à une pêche d'étang. Ensuite, nous nous sommes rendus au parc des oiseaux où nous avons interrogé le soigneur des colibris.
Une pêche d'étang. On a pris le car pour aller à une pêche d'étang dans la Dombes.
La Dombes est une partie du département de l'Ain. Les autres parties de notre département sont le Val de Saône, la Bresse, le Revermont, la Côtière, le Haut-Bugey, le Bugey, le Pays de Gex.
Tout a commencé quand on a vu un drôle de monsieur. Il avait des grandes bottes et il était gentil. Et il nous a bien accueillis. Il nous a expliqué des choses très intéressantes, ainsi que le déroulement de la pêche d'étang. On a vu des pêcheurs avec un filet, d'autres avec des épuisettes, d'autres avec une longue table en fer, avec de l'eau dessus pour tirer les poissons. Les derniers transportaient les poissons dans des caisses. On a regardé, on a écouté, on a touché les poissons.
Les poissons sont des animaux aquatiques vertébrés. Ils ont des branchies pour respirer, des nageoires pour se déplacer, des écailles pour se protéger. La femelle pond des œufs. Il existe 80 espèces de poissons d'eau douce.
Leur corps est recouvert d'écailles et de quelque chose de gluant qui s'appelle le mucus. Il protège le poisson des microbes et des maladies. Pour ne pas abîmer cette protection et pour ne pas gêner la respiration, il faut éviter de toucher les poissons. La peau est souvent abîmée par les oiseaux qui essaient d'attraper les poissons.
On a mis nos doigts dans leur bouche, on a vu les dents d'un poisson carnassier, on a deviné le nom des nageoires.
On a observé la nageoire dorsale. Elle est sur le dos. La nageoire caudale, c'est la queue. Les nageoires pectorales, elles sont sur les côtés. Sur sa tête, les poissons ont des capteurs qui permettent de percevoir les bruits et les chocs dans l'eau et donc de sentir le danger pour pouvoir s'enfuir.
On a regardé l'intérieur des branchies. C'était rouge.
Le poisson aspire l'eau par la bouche, puis il la ferme. L'eau passe alors dans ses branchies. L'oxygène de l'eau passe dans le sang du poisson. Les déchets de son sang sont rejetés dans l'eau. L'eau sort du poisson, c'est l'expiration. De nombreux poissons respirent aussi par la peau. Quand le poisson est hors de l'eau, il peut aspirer un peu d'air avec sa bouche pour prendre l'oxygène de l'air. On a vu les barbillons. C'est comme des moustaches. Cela permet aux poissons de sentir les bruits et les mouvements dans l'eau pour trouver des proies à manger ou éviter les dangers.
Au bord de l'étang, on a vu une grenouille, un ver de terre, des insectes, des oiseaux blancs, gris et noirs. À la fin, on a fait le tour de l'étang. On a vu de petites pommes de pin, des plantes parasites, des iris. Il y avait peu de boue. Nous avons rapporté à l'école de très grosses moules d'eau douce. Puis nous sommes allés rejoindre le car. Vers le car, nous avons vu une cabane de chasse. Quand nous sommes rentrés à l'école, nous avons pique-niqué.
Les poissons des étangs. Il existe des poissons carnivores comme le brochet, la carpe, la perche et le sandre. Des poissons omnivores comme la carpe, le gardon, le rotangle, la tanche. La perche soleil, le poisson chat, le bora sont des indésirables car on ne peut pas les vendre et qu'ils mangent les jeunes poissons de l'étang. On cuisine le brochet, la carpe et le cendre.
Nous allons vous parler de la pêche d'étang à laquelle nous avons assisté.
Voici les poissons qu'on peut pêcher dans l'étang.
Le brochet. Son dos est toutes les couleurs avec des taches noires et blanches. Son ventre est blanc. Il mesure de 110 à 130 cm. Il pèse jusqu'à 10 kg. Il est très long. Ses nageoires sont puissantes, donc il est rapide. Il a une grande bouche avec des dents pointues. Il est carnassier. Il se nourrit de poissons blancs comme le gardon, le rotangle. Il mange aussi des têtards, des écrevisses, des grenouilles, parfois même des petits rongeurs et des canetons. Il grandit très vite. Il vit tout seul. Sa longévité est de 12 à 15 ans. Il se reproduit de février à mars. Les œufs sont posés sur des plantes aquatiques.
La carpe. Elle est omnivore, elle mange de tout dans l'air et dans l'eau. Sa taille adulte est de 50 à 60 cm et son poids 10 kg. Sa longévité est de 20 ans. En élevage, elle vit 3 ans. Exceptionnellement, dans des lacs profonds, elle peut peser 35 kg et vivre 40 ans. Elle est de couleur brune, elle vit calmement et elle est active au coucher du soleil. Elle aime l'eau chaude. Elle se reproduit entre mai et juillet. La femelle pond 300 000 œufs grâce à ses papillons. Elle peut détecter sa nourriture et le mouvement dans l'eau. Il existe plusieurs sorte de carpe, la carpe commune, miroir, cuir et coï.
Le gardon, le bébé gardon mesure de 10 à 30 cm et pèse 200 g. L'adulte mesure 35 cm, exceptionnellement 45 à 50, et pèse environ 1 kg. Il grandit lentement, il vit en groupe, ses écailles sont argentées et très brillantes. Son dos est vert foncé, ses nageoires rouges et brunes. Sa longévité est de 12 ans. Il aime les eaux calmes, sans courant, avec des plantes au fond. Il est omnivore. Le gardon adulte aime beaucoup manger les algues. La ponte a lieu au printemps. Les œufs sont accrochés aux plantes aquatiques.
La perche commune. Comme la perche soleil, c'est un poisson carnassier. Elle mange des larves, des crustacés, des mollusques, des alevins, des vers, des petits poissons et des petites grenouilles. Elle vit en groupe dans les étangs, les lacs et les rivières. Elle est toujours en mouvement, surtout le jour. Sa longévité est de 12 ans. À 3 ans, elle mesure 20 à 30 cm et pèse 200 g. Exceptionnellement, elle peut mesurer 40 cm et peser 2 kg. La femelle pond 300 000 œufs qui s'accrochent aux plantes aquatiques en formant des colliers.
La perche au soleil. Elle pèse 110 g et mesure 15 cm. Elle a des couleurs vives, bleu, rouge, vert. Elle a le ventre arrondi, une petite bouche et des épines sur la nageoire dorsale. Elle n'a pas d'écailles sur les joues. C'est un carnassier. Sa nourriture, vers, larves, crustacés, alevins, petits poissons, œufs de poisson. C'est un poisson nuisible. La femelle pond de 600 à 6000 œufs qui éclosent après 3 jours.
Le rotangle, il pèse de 500 g à 1 kg. Il mesure de 15 à 30 cm. Les nageoires sont rouges, les écailles brillantes. Son dos est brun verdâtre. Il ressemble au gardon. Sa longévité est de 17 ans. Il est adulte vers 2 ou 3 ans. Il vit en groupe avec d'autres espèces de poissons. Il est omnivore. Il mange des mousses, de grandes algues, des insectes. Il vit dans les étangs. Il aime les eaux calmes, chaudes, lentes avec de la végétation aquatique. Il se reproduit d'avril à juin. La femelle pond chaque année 80 000 à 200 000 œufs qui s'accrochent aux plantes aquatiques.
Le cendre, il mesure de 50 à 70 cm. Il pèse de 800 g à 3 ou 4 kg. Il est de couleur dorée. Il a une très bonne vue et il a deux nageoires dorsales. Il est carnivore. Sa bouche est petite et s'ouvre peu. Il mange donc des petits poissons de 6 à 12 cm. Souvent, il tue ses proies, les laisse au fond de l'eau et vient les récupérer plus tard. Le bébé cendre mange de petits organismes. Le cendre aime les eaux chaudes, lentes et profondes. Il se reproduit en avril-mai. Pendant l'incubation, les parents veillent sur les œufs et les gardent propres en remuant l'eau au-dessus du nid. Il est très recherché par les restaurateurs car il est très bon à manger. C'est un poisson qui vit en groupe.
La tanche, elle pèse de 1 à 2 kg et mesure 30 cm. Sa longévité est de 10 ans. Elle est verdâtre sur le dos, jaune pâle sur le ventre et dorée sur les côtés. Elle a des barbillons, sa tête est sans écailles. Elle est de forme allongée. Elle vit en petits groupes. Au fond de l'eau où il y a des plantes aquatiques. Dans les lacs, les étangs, les cours d'eau largicales. Elle est omnivore. Elle se nourrit de débris, de plantes, de vers, de crustacés, de larves d'insectes. Elle fouille le fond vaseux la nuit pour trouver sa nourriture. Elle peut vivre avec peu d'oxygène. Les œufs de la tanche se fixent sur les plantes aquatiques. On peut aussi trouver des poissons d'eau douce dans les ruisseaux, les rivières, les fleuves. Voici où ils vivent.
On trouve aussi des poissons dans les rivières et les fleuves. Depuis la montagne jusqu'à la plaine, on trouve quatre zones où les poissons sont répartis. Dans la montagne, près de la source, c'est la zone à truites. Il y a beaucoup de courant, beaucoup d'oxygène, l'eau est assez froide. On trouve des saumons, des verrons, des truites. En descendant un peu plus bas, on est dans la zone à ombre. Il y a moins de courant, l'eau est moins froide. On trouve encore des truites et on commence à voir des cendres ainsi que des ombres.
Continuant de descendre, on arrive dans la zone à barbeaux. Il y a peu de courant, l'eau est plus chaude. On trouve donc des barbeaux, des brochettes, des carpes, des perches et encore des cendres. La dernière zone est la zone à brème. C'est une zone qui est près de l'estuaire. C'est là où le fleuve se jette dans la mer. On y trouve aussi des anguilles.
Voici comment se sont formés les premiers étangs et comment ils fonctionnent.
La naissance des étangs. Les étangs ont été creusés par les moines au Moyen-Âge. Ils sont peu profonds. Dans le fond, c'est de l'argile qui retient l'eau. Ils ont ensuite remis une petite couche de terre, puis l'eau de pluie a rempli les étangs. Les poissons des étangs ont permis aux moines et aux habitants de la Dombe de se nourrir car il y avait peu de viande à manger à cette époque-là. En plus, la Dombe était infestée de moustiques. Comme les poissons mangent les moustiques, c'était un moyen de se débarrasser de ces insectes.
Le déroulement d'une pêche d'étang. On vide l'étang tous les 3 ou 4 ans,
Puis pendant une année, on les laisse secs. On cultive des céréales dans le fond. La chaleur du soleil tue les microbes, ce que l'eau et les poissons ont laissé au fond sert d'engrais pour les cultures qu'on sème la quatrième année. La pêche se fait en hiver.
Une semaine avant la pêche, on ouvre le tout pour permettre à l'eau de s'écouler. Elle va souvent remplir un autre étang qui est à côté pour faire passer l'eau d'un étang à l'autre. Il faut d'abord vider l'étang le plus bas, puis ouvrir le tout d'un étang situé plus haut et laisser descendre l'eau. Les poissons suivent l'eau qui s'écoule grâce à des filets. Les pêcheurs guident les poissons jusqu'à la pêcherie.
C'est l'endroit le plus profond qui est vers le tout. Les pêcheurs prennent alors les poissons avec les épuisettes pour ne pas les blesser. Puis ils mettent dans les caisses pour les transporter. Les brochets qui aiment nager à la surface seront les premiers pêchés. Les caisses sont vidées sur une espèce de longue table en métal. Les poissons y sont triés par espèce, par taille puis pesés. On les met dans des cuves avec de l'oxygène. On met les cuves sur un camion pour transporter les poissons. Dans chaque cuve, il y a 400 à 500 kg de poissons.
Certains comme le brochet, le cendre ou la carpe seront vendus au restaurant. D'autres poissons seront remis à d'autres étangs pour continuer de grossir et de se reproduire. Dans les étangs, les poissons se nourrissent seuls. On leur donne juste un peu de céréales en hiver. Les températures du cœur du poisson suivent la température de l'eau. En hiver, son corps est donc plus froid et il vit au ralenti. Lorsque l'eau se réchauffe, au printemps, il recommence à bouger. Il peut connaître l'âge d'un poisson en regardant ses écailles ou grâce à l'os de sa tête lorsqu'il est mort.
Et maintenant, quelques devinettes sur les oiseaux.
Qu'est-ce qu'un oiseau ?
Les oiseaux ne sont pas les seuls animaux à voler.
Tous les oiseaux ont des ailes, mais tous ne volent pas. Certains rampent, sautillent ou courent sur le sol, d'autres nagent comme les phoques dans l'océan.
Les oiseaux ne sont pas les seuls à posséder un bec. L'ornithorynque en a un aussi.
Les oiseaux ne sont pas les seuls à pondre. Les reptiles pondent aussi.
Les oiseaux ne sont pas les seuls à posséder des ailes et un bec, ni à pondre des œufs, mais ce sont les seules créatures au monde à être couvertes de plumes.
Quel est l'oiseau le plus grand ?
C'est l'autruche qui mesure plus de 2,50 m. Elle pourrait toucher le plafond. Elle est aussi très lourde. Elle pèse aussi lourd qu'un petit poney.
L'autruche ne vole pas, mais en cas de danger, elle peut courir jusqu'à 72 km/h, plus vite qu'un cheval de course.
Le plus grand oiseau volant est l'albatros migrateur. La longueur de ses ailes ouvertes est égale à la longueur d'une grande voiture.
Il y a tellement d'oiseaux sur la Terre que c'est comme si chaque habitant de la planète possédait 30 oiseaux.
Qui vole le plus vite ?
C'est le faucon pèlerin. Il est capable de piquer sur sa proie à plus de 200 km/h. C'est l'animal le plus rapide de la Terre. Le canard d'air aussi est très rapide. Il peut voler à 100 km/h.
Seuls les colibris sont capables de voler en arrière. Ils volent aussi en avant, sur les côtés et la tête en bas.
Le martinet commun passe presque toute sa vie dans les airs. Il dort même en vol.
Comment mangent les oiseaux?
Le bec du colibri est plus long que son corps. Comme une paille, il lui sert à aspirer le nectar des fleurs.
Le bec du flamant rose fonctionne comme une passoire. Il a des petits trous qui filtrent l'eau pour ne retenir que les minuscules animaux aquatiques.
Les petits flamants se nourrissent d'une sorte de liquide préparé par leurs parents. Cela ressemble à du lait de mammifère mais en rouge.
Le pic des Galapagos est le seul oiseau à se servir d'une fourchette. Il utilise un brindille coincé dans son bec pour déloger les insectes cachés dans les trous des arbres.
Le serpentaire d'Afrique chasse avec ses pattes. Il attrape les serpents dans ses cerfs et il les tue en les écrasant au sol.
Pour se nourrir, le toucan écarte les feuilles avec son long bec puissant. Ensuite, il s'en sert comme d'une pince pour cueillir le fruit sur la branche. Puis il le lance en l'air et le rattrape en vol pour l'avaler.
Quand les oiseaux ont-ils des dents?
Quand le poussin est dans l'œuf, une dent pousse sur le bec. Lors de l'éclosion, elle lui sert à casser la coquille de l'intérieur. La dent tombe peu après, car le poussin n'en aura plus jamais besoin.
Qui est le plus habile?
Le tisseur à mâle doit prouver à la femelle qu'il est capable de bâtir un nid. Il se suspend à une branche et tisse de longs brins d'herbe en forme de boule creuse. Si le nid lui plaît, la femelle le borde de plumes. Sinon, il faut tout recommencer.
Quel nid possède le chauffage central?
Le Lepoa acelé d'Australie pond ses œufs dans un tas de feuilles. En pourrissant, elle dégage la chaleur qui protège les œufs. Tous les jours, le père vérifie le nid avec son bec. S'il est trop chaud, il perce un trou pour le refroidir.
De nombreux oiseaux passent la nuit à l'abri, serrés les uns contre les autres. Ainsi, ils se tiennent chauds, surtout en hiver. Cela s'appelle percher.
Combien de plumes a un oiseau?
Plus un oiseau est gros, plus il a de plumes. Le colibri en possède environ 900. Le cygne en a 25 000. Il existe des plumes de toutes les tailles et de toutes les formes. Le duvet garde l'oiseau au chaud. D'autres plumes le protègent de la pluie. Les plus épaisses lui donnent la force de voler.
Pourquoi les vautours sont-ils chauves?
Ils plongent la tête à l'intérieur des cadavres d'animaux pour en arracher la chair. S'ils avaient des plumes sur la tête, elles se saliraient et seraient impossibles à nettoyer. Il est donc plus pratique qu'ils restent chauves.
Pour finir, nous vous présentons la carte d'identité du colibri. Nous avons aussi visité le parc des oiseaux à Villars-les-Dombes. C'est le plus grand parc de France. C'est le seul où il y a des colibris. Le parc échange des oiseaux avec d'autres parcs soigneurs qui s'occupent des colibris. A bien voulu répondre à nos questions. Voici ce qu'il nous a dit.
On appelle aussi le colibri l'oiseau mouche à cause de sa petite taille. Au parc des oiseaux, il y a une seule espèce de colibri. C'est le colibri or vert. On a recréé son habitat naturel. On le trouve en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Martinique et en Asie. Il vit surtout dans les forêts tropicales où il y a chaleur et humidité. Ce colibri est bleu, vert métallique et marron sur les ailes. Les colibris ont des becs très longs pour aller chercher le nectar au fond du cœur des fleurs. C'est leur seule nourriture. La longueur du bec varie en fonction des espèces.
Au parc, les colibris mangent du nectar artificiel car il n'y a pas les fleurs de leur milieu naturel. Et ils le prennent dans de petits biberons accrochés aux arbres de leur terrarium. Les colibris ont des ailes courtes et pointues pour pouvoir battre les ailes très vite. C'est le seul oiseau à voler sur place. Comme il est tout le temps en mouvement, il dépense beaucoup d'énergie. Donc, il mange tout le temps. Il se pose pour dormir. C'est le seul moment où il est immobile. C'est le plus petit oiseau au monde. Le plus petit des colibris à la taille d'un bourdon. Le plus grand mesure de 25 à 30 cm. Certains ont une huppe sur la tête et la queue est plus ou moins longue. Il a de très petites pattes, donc il ne marche presque pas. Il se pose sur de petites branches.
Les colibris sont toujours très colorés, orange, rouge, fuchsia, bleu, vert. Les mâles et les femelles ont les mêmes couleurs, la même taille, le même poids et le même bec. On ne les différencie pas facilement. On ne met pas deux colibris mâles ensemble, sinon ils se battent. Chacun défend son territoire. Au parc, d'autres espèces d'oiseaux venus d'Amérique du Sud partagent le terrarium des colibris, mais il n'y a pas de dispute car ils ne sont pas de la même espèce.
Pour l'accouplement, au parc des oiseaux, on ouvre les cages pour que les mâles rencontrent les femelles, puis on sépare de nouveau les oiseaux. Dans la nature, c'est pareil. Après l'accouplement, le mâle part. C'est la femelle qui couve les œufs. Elle pond seulement un ou deux œufs car ils sont très gros par rapport à elle. Elle pond une fois par an. En captivité, c'est très difficile de faire se reproduire les colibris. Au parc, ce n'est encore jamais arrivé. Un œuf est couvé pendant 28 à 30 jours. Le nid est tout petit, fait de toile d'araignée comme la barbe à papa. Il est placé haut dans les arbres. Les bébés restent un mois dans le nid. C'est la femelle qui s'occupe d'eux. Elle les nourrit avec de petites mouches qu'elle trouve sur les moisissures des fruits.
Il faut un an à un an et demi pour que le petit soit adulte. Il y a de moins en moins de colibris car il y a de moins en moins de forêts et de fleurs. Il faut de plus en plus de terres cultivées car il y a de plus en plus d'humains à nourrir sur terre. Alors on supprime des forêts pour en cultiver plus. Il y a aussi des braconniers qui attrapent les colibris pour les vendre. Les prédateurs des colibris sont d'autres oiseaux très rapides. Des petits félins, des oiseaux nocturnes comme les chouettes, des grosses mygales. En captivité, le colibri est un oiseau fragile, mais pas dans la nature. Nous avons appris beaucoup de choses sur cet oiseau. Nous l'avons observé dans son terrarium et admiré ses belles couleurs.
La fin de notre émission.
Vous pourrez la réécouter sur le site internet de Radio B.
Merci de nous avoir écoutés.